Bonjour Denise, Dieu vous bénisse. Donc, on va ouvrir nos Bibles dans 2 Timothée au chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Et on va lire les versets 6 et 7 qui sont la base de notre réflexion. Pour cette semaine, on est rendu maintenant ce matin à étudier la première phrase du verset 7, mais on va quand même lire l'ensemble du texte qui nous servait de méditation pour cette semaine. Donc 2 Timothée 4 et le verset 6. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Je répète les versets. Car pour moi, je sers déjà de libation. Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et le texte pour ce matin, j'ai combattu le bon combat. On vous invite à ceux qui n'ont pas pu être là à travers les 2 dernières journées de vous prévaloir du privilège de pouvoir réécouter les enseignements qu'on a laissés donc sur Facebook. En faisant descendre votre page vers le bas, vous pourrez donc trouver les 2 enseignements précédents de cette semaine qui, je crois, sont importants. On a compris ce que voulait dire servir de libation lundi. Et hier, on a parlé de ce départ auquel Paul était confronté et auquel nous tous, on va être confrontés à moins que le Seigneur ne vienne chercher son Église de notre vivant. Et ce matin, on continue avec cette phrase, j'ai combattu le bon combat. 3 mots importants, le terme combattre, le terme bon. Et le terme combat. Je ne vous donnerai pas tout de suite la version grecque de combattre et de combat. On va le garder pour la fin, mais on va quand même expliquer la terminologie. Donc, j'ai combattu le bon combat. Le premier terme, le verbe combattre, dans le grec va avoir 3 sens différents. Tout d'abord, combattre va nous parler de concourir. Lorsque Paul ici fait allusion à combattre le bon combat, idem pour la course qu'il court, il parle en fait d'une pratique qui était assez usuelle au temps des Romains et précédemment à l'époque de l'Empire grec, lorsqu'on parlait notamment, dans un langage plus contemporain, des Jeux olympiques ou des joutes. Donc les joutes, c'était des épreuves sportives auxquelles les plus vaillants représentants de chaque nation de l'Empire grec d'abord, puis de l'Empire romain, une joute auxquelles ces plus grands sportifs participaient. Et parmi les épreuves de ces joutes, qui sont par la suite devenues les Jeux olympiques, on parlait aussi d'un combat qui pouvait être soit quelque chose qui ressemblerait à la boxe, ou quelque chose qui ressemblerait à la lutte dans le style lutte olympique ou ce qu'on avait aussi à l'époque, la lutte gréco-romaine, grecque-romaine, qui vient trouver son origine à cette époque-là. Donc c'était une joute dans laquelle on concourait. Et lorsqu'on parle de concourir ici, on parle que cette joute va être jugée ou est jugée. Et bien entendu, ce combat, cette joute dont Paul nous parle, c'est effectivement notre existence ici-bas sur Terre en tant qu'être mortel. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Comment on la meuble? Comment on l'utilise pour le royaume de Dieu? Et dans cette joute, dans ce cours de temps ou ce laps de temps qui nous est imparti, qu'on appelle la vie, bien, cette joute nous est aussi jugée. Dieu regarde chacune de nos actions, Dieu regarde chacune de nos paroles et le rendement de notre activité. Et c'est probablement une notion que beaucoup de chrétiens occultent ou une notion que beaucoup de chrétiens laissent tomber parce que On met ça derrière en pensant, mais Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu nous fait grâce, Dieu a compassion, Dieu a miséricorde, et tout cela est vrai. Mais il n'en reste pas moins que notre vie sera appelée en jugement. Et lorsque Paul est en train de dire qu'il a combattu le bon combat, non seulement est-il arrivé vers la fin de son combat, vers la fin de sa joute ici-bas sur terre, et il dit que cette joute aura été jugée, parce que le terme utilisé nous parle donc qu'il y a un arbitre, qu'il y a un juge qui regarde, un peu comme dans l'époque des gladiateurs romains, celui qui présidait la joute, en l'occurrence dans plusieurs cas, l'empereur, César notamment, à la fin d'un combat, lorsqu'il y a un adversaire qui mène sur un autre, l'empereur va lever le pouce ou baisser le pouce, et c'était la grâce qu'il accordait ou non à un combattant qui venait de perdre. Donc l'empereur jugeait le combat. Et le combat ne terminait que lorsqu'il restait en tout un seul combattant qui était approuvé par l'empereur. Donc une joute, notre vie sera jugée. Deuxième notion par rapport à combattre, c'est la notion d'affrontement. Une joute où l'on affronte ce qui est à affronter. On ne peut pas baisser les chines à droite ou à gauche pour éviter les affrontements. En tant que gladiateur, en tant que sportif dans cette joute ou de concurrent dans cette joute, nous affrontons ce qui vient nous faire face. Pas nécessairement qu'on cherche les problèmes, pas qu'on court après les problèmes, mais on y fait face avec la grâce, avec la sagesse, avec la science, avec l'intelligence que Dieu nous accorde. Et chacune des situations ici-bas sur Terre, dans notre vie, est l'occasion pour nous de démontrer notre foi à travers nos actions, à travers nos paroles et à travers nos orientations. Comment je me dispose, je me positionne par rapport à une situation, à une autre, va témoigner de la foi, va témoigner de la paix que Dieu me donne, va témoigner de la grâce ou de la réalisation que j'ai de la grâce de Dieu dans ma vie ou de l'inconscience que j'affiche par rapport à la grâce que Dieu me fait. Donc dans cet affrontement, j'affronte ce qui se dresse devant moi. La Bible nous dit que nous ne serons jamais tentés au-dessus de nos forces. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas d'épreuves. Ça veut dire que la tentation que le diable pourrait lancer sur nous ne dépassera pas ce à quoi nous pouvons faire face. Donc on peut être assuré que toute épreuve qui vient devant nous, que toute situation qui vient devant nous, nous avons le plein potentiel pour la vaincre et pour en sortir victorieux. Pourquoi? Parce que finalement, celui qui vit en nous n'est-il pas Christ, celui qui a vaincu la mort, le péché, le séjour de mort, des morts, et celui qui est sorti victorieux du tombeau et qui règne d'éternité en éternité. Donc ce Seigneur qui vit en moi me rend apte à affronter toute situation qui vient devant moi, et je n'ai pas à m'écarter à droite et à gauche. Je peux effectivement regarder le combat droit dans les yeux. Voilà pourquoi Paul disait à la mort, où est ton aiguillon? Parce qu'il n'avait plus peur de la mort, sachant que cette mort avait été vaincue par Christ, et sachant que sa vie, comme on l'a vu hier, était entre les mains de Dieu, et que le seul qui pouvait le ramener là-haut ou le faire passer dans l'éternité, c'était Dieu. Donc, troisième point dans combattre, après avoir parlé d'une question de concourir, donc d'une joute qui est jugée, après avoir parlé d'un affrontement où on fait face aux adversaires, quels qu'ils soient, aussi nombreux soient-ils, et dans quelque force qu'ils aient, on les affronte. La troisième notion de combattre, et je m'excuse parce qu'il y a les éboueurs qui passent ce matin, on parle de s'efforcer. Là encore, c'est une notion que certains chrétiens tentent à éluder. tendent à laisser de côté. La vie chrétienne n'est pas une vie dans un club med. La vie chrétienne, tout comme la vie normale, n'est pas tout simplement à être en vacances dans un tout inclus où on prépare notre nourriture et puis on est simplement à s'asseoir à table et à se coucher et à se faire bronzer et à aller s'amuser. La vie qui est la nôtre est la vie d'un compétiteur, est la vie d'un soldat, est la vie d'un athlète, est la vie d'un vigneron, est la vie d'un fermier. Nous sommes des gens actifs. Toutes ces professions, toutes ces activités que je viens de nommer ont un point commun, c'est que toute activité demande un effort. Alors, après avoir concouru, après avoir affronté qui on doit affronter ou ce qu'on doit affronter, on doit aussi faire preuve d'un effort, donc d'une dépense d'énergie, d'un effort qu'on formule à l'occasion d'une activité ponctuelle. Mais aussi, on parle, quand on parle de s'efforcer, on parle d'une ténacité et d'une résilience. On est toujours déçu dans un sport d'équipe lorsqu'il y a quelqu'un qui joue dans notre équipe et qui n'est là que par à-coup. Donc, un match, il est là, le match suivant, il n'est pas là. Le troisième match, il s'implique totalement. Le quatrième, on n'a pas entendu une fois son nom être mentionné. On ne sait même pas qu'il était sur le terrain. C'est frustrant pour des sportifs de travailler avec de tels collègues. Voilà pourquoi ça prend non seulement de la ténacité, ça prend de la résilience, mais quand on parle de s'efforcer, ça demande aussi de la fidélité. Et rappelons-nous ce que sera notre salutation à notre arrivée dans l'éternité si effectivement on a combattu le bon combat. Le Seigneur va nous dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Donc, je m'excuse, « Bon et fidèle serviteur. » La fidélité se voit dans le long terme, se voit dans le fait que je perdure dans mon effort, dans mon travail et dans mon activité. Si j'abandonne, je reviens, j'abandonne, je reviens, j'abandonne, je reviens, je ne fais pas preuve de constance, je ne fais pas preuve de ténacité, je ne fais pas preuve de résilience et somme toute, je ne fais pas preuve de fidélité. Donc, combattre, concourir en sachant que notre course et notre joute est jugée, affronter en sachant que dans cette joute, dans ce combat qui est nôtre, on affronte ce qui vient à nous, peu importe ce qui vient à nous, on se relève les manches et on va de l'avant. Et finalement, on s'efforce. Donc une joute qui va requérir de la ténacité, un déploiement d'efforts, un déploiement de stratégie, de la résilience et de la fidélité dans notre implication. On nous dit toutefois, j'ai combattu le bon combat. Alors, la première notion qu'on pourrait dire à propos du terme kalos, K-A-L-O-S, en grec pour le terme bon combat, qu'est-ce qui fait que c'est un bon combat? Mais c'est un bon combat parce que si on dit bon, c'est qu'il y en a d'autres qui sont mauvais. Donc, il est bon aux yeux de qui? Bon aux yeux de Dieu. Mais le terme kalos va avoir quatre connotations différentes ici. Le premier sens de kalos va être le sens de beauté. Une joute qu'on peut admirer et qui inspire. Vous savez, lorsque les Jeux olympiques arrivent et qu'un athlète de notre pays performe bien, on nous dit que comme conséquence à sa performance qui est temporelle, qui est fixée dans le temps, on nous dit que comme conséquence à cette activité, beaucoup de jeunes gens pourraient se mettre à pratiquer le sport dans lequel notre concitoyen, notre frère de nation, on va dire, a réussi. Je me rappelle lorsque Ben Johnson avait gagné, ça a été par la suite bien entendu une source de honte, mais lorsque Ben Johnson a gagné la course à Séoul, et dans tout ce qui avait précédé, qui avait amené, ben les jours qui ont suivi, on avait envie d'être Ben Johnson. Et plusieurs vont le dire que malgré l'échec retentissant en quoi s'est converti Ben Johnson par la suite, ça les a inspirés tout de même à se rendre dans des clubs d'athlétisme. Pensons simplement à la France lorsque les Bleus ont gagné la Coupe du Monde à deux occasions. On nous dit que les inscriptions dans les clubs de foot ont augmenté. Lorsque le Canadien, pour ceux qui sont de Montréal, équipe de hockey professionnel de Montréal, illustre équipe de hockey professionnel de Montréal, même si je ne les aime pas, lorsqu'ils ont gagné toutes les Coupes Stanley qu'ils avaient l'habitude de gagner, ben les inscriptions au hockey ne faisaient que décupler à chaque fois. Donc quand on parle de beau, de bon combat, de beau combat, on parle d'une joute que l'on peut admirer et qui va inspirer aussi. De la façon dont je mène ma vie, des jeunes gens vont me regarder et vont essayer de copier ce que je fais. Je me rappelle que j'ai grandi avec des bouquins, des biographies qui me parlaient des Martin Luther King, qui me parlaient des Jackie Robinson, qui me parlaient des Marie et Pierre Curie, qui me parlaient de gens qui avaient excellé dans différents domaines et j'aspirais à faire comme eux. À l'époque, je m'orientais plutôt vers une carrière en politique et j'avais quelques politiciens qui m'inspiraient de par leur discours, de par leur position, leurs idéologies. Donc nous, lorsqu'on mène notre combat, le beau combat, le bon combat, on est aussi capable d'influencer nos contemporains, mais aussi d'influencer les générations qui viennent par la suite. Beau dans le sens aussi de approuver. Kalos va avoir cette connotation d'un combat, d'une joute, d'une activité qui est approuvée. Et lorsqu'on parle d'une joute sportive, ben on ne peut pas gagner si on ne joue pas selon les règles. Je parlais de Ben Johnson tout à l'heure. Il a triché, il a été disqualifié. Et il a perdu ses médailles et son record du monde. Plus récemment, il y a eu tout ce scandale en France et même au niveau mondial avec les tricheries de Lance Armstrong, qui était un grand coureur cycliste qui avait battu le record du nombre de Tours de France remportés par un seul individu. Et il s'est avéré que tous ces Tours de France avaient été truqué par l'usage de produits dopants. Donc, il a été trouvé coupable et il a été déchu de tous ses titres. Alors, lorsqu'on parle d'approuver ici, c'est que s'il y a un juge qui effectivement scrute notre joute, c'est que ce juge va rendre un jour un verdict, à savoir, est-ce que notre course a été courue selon les règles? Est-ce qu'on a combattu selon les règles propres au combat? Vous savez que je pratique un peu la boxe et dans la boxe, il y a des règles, il y a des façons de frapper qui sont légales et il y a d'autres façons de frapper qui sont illégales. Et si un boxeur qui s'est fait avertir à une, deux, trois reprises, on va d'abord commencer par enlever un point par round et si ça continue, l'arbitre peut aller jusqu'à disqualifier l'athlète. De surcroît à cela, s'il y a des tests antidopage qui sont faits et qui s'avèrent positifs, ben à ce moment-là, l'athlète sera aussi disqualifié. Paul va dire dans un autre passage que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Donc lorsqu'on parle d'un bon combat, j'ai combattu le bon combat, c'est que j'ai aussi combattu selon les règles propres au combat. Et je vous rappellerai que les règles sont situées dans ce livre, dans la Bible, qui nous disent comment nous devons mener notre course et notre combat de tous les jours. Lorsqu'on parle de kalos, on parle aussi comme troisième connotation au terme bon, comme authentique, une joute où l'on ne peut pas faire semblant. Vous savez que, notamment au foot, une des choses qui exaspère les spectateurs, c'est que lorsqu'il y a un joueur adverse, même s'il est bon, lorsque celui-ci se jette au sol et fait des plongeons comme si on l'avait poussé, il se roule par terre, et je nommerai pas les joueurs, mais il y en a un qui joue pour le Brésil et pour le PSG en France, et vous savez que celui-là se roule par terre constamment comme s'il avait une grave blessure. Ça frustre le spectateur, ça frustre les adversaires et ça exaspère aussi l'arbitre. Donc, c'est pas une joute dans celle qu'on parle aujourd'hui, la joute spirituelle, notre vie, où nous pouvons faire semblant. Parce que Dieu sait effectivement départir le vrai du faux. Il sait effectivement lorsque nous donnons notre tout, de ce que lorsque nous donnons tout simplement une partie. Rappelons-nous cet épisode où Ananias et Saphira vont s'approcher de Pierre en disant « Voici, nous avons vendu un champ et voici, on t'amène tout l'argent. » Et ils vont mentir sur le fait qu'ils ont donné tout leur argent. Et le problème n'était pas nécessairement qu'ils aient retenu une partie, parce que le champ leur appartenait, ils avaient le droit. Le problème, c'est qu'ils ont fait semblant de tout donner à l'Église et de tout donner à l'œuvre de Dieu et de tout donner au Seigneur. On ne peut pas s'amuser à tromper Dieu. On ne peut pas faire semblant d'avoir donné son meilleur avec Dieu et prétendre ainsi avoir combattu le bon combat. Le bon combat, on l'a vu dans le verset 5 de 2 Timothée 4, il y a deux ou trois jours, où Paul disait à Timothée de remplir bien son ministère. Et lorsqu'on parle de bien remplir, c'est qu'on l'exécute totalement et pleinement. On ne peut pas faire semblant. On ne joue pas à l'Église. On ne joue pas à être enfant de Dieu. C'est pas comme quand on joue au foot ou quand on joue au tennis ou quand on joue au handball ou dans d'autres sports. Ici, on parle d'un combat. Et on parle que dans ce combat, nous ne pouvons pas faire semblant. Enfin, dernière connotation pour kalos, pour bon, on nous parle d'une joute qui est précieuse. Alors, il y avait beau, il y avait approuvé, il y avait authentique et il y a précieux. Dans quel sens précieux? Ben, le combat que nous menons est le plus important qui soit et celui dont les conséquences sont les plus importantes qui nous soient données. Certains pensent que la chose importante de leur vie, c'est de réussir leur carrière. Certains pensent que la chose la plus importante de leur existence, c'est de réussir leur vie conjugale. Certains pensent que la chose la plus importante, c'est d'élever nos enfants droitement. Et comprenez-moi, toutes ces choses sont bonnes et sont légitimes. Mais la chose la plus importante qui nous est donnée à nous en tant qu'enfants de Dieu, à nous en tant que disciples de Dieu, disciples de Christ, c'est de faire avancer le royaume de Dieu. J'ai déjà eu à expliquer que lorsque Dieu a pensé à la connexion entre un homme et son épouse, entre une épouse et son mari, la pensée initiale de Dieu, lorsqu'il a créé Ève, c'est qu'il a créé Ève comme étant une aide à Adam dans l'œuvre qui avait été fixée à Adam. Quelle était cette œuvre-là? C'était de s'occuper du jardin d'Éden. Et on disait que cette tâche était trop grande, tout simplement, pour Adam. Et Dieu a dit, je vais lui faire une compagne. Et compagne dans le sens des compagnons, dans le sens de cet autre ouvrier qui se joint à un précédent ouvrier pour faire, pour mener à bien une œuvre. Donc ici, lorsqu'on parle de la joute comme étant une œuvre et comme ayant une portée qui est précieuse, c'est que toi et moi, nous sommes appelés à contribuer à l'avancement de l'Évangile, à l'avancement du royaume de Dieu. Et cet avancement consiste à amener des âmes à Christ et consiste à amener des âmes avec nous dans l'éternité en la présence de Christ, de les approcher du Seigneur et du Sauveur. Et face à cela, toutes les autres choses de cette vie, toutes les autres choses de cette terre ici-bas sont bien faibles et bien moins précieuses. Donc notre combat est précieux dans le sens où la portée même de ce combat a une portée éternelle. Ta carrière, elle est bonne pour ici-bas sur terre. Ton avancement social, il est bon simplement pour ici-bas sur terre, mais lorsque tu passes dans l'éternité, la seule chose que tu peux amener avec toi, c'est si tu as amené des âmes à Christ et qui vont passer le restant de l'éternité avec toi. Donc beau, bon, dans le terme kalos, qui voulait dire une joute qui est belle, qui suscite l'admiration et qui suscite aussi l'imitation. Paul disait « Soyez mes imitateurs comme moi-même je suis imitateur de Christ ». Donc la vie de Paul devait nous inspirer ou devait inspirer ses contemporains. Notre vie devrait être une source d'inspiration. De surcroît à cela, une joute qui est approuvée, qui se fait selon les règles, qui se concourt selon les règles, une joute qui va être jugée bien entendu simplement si on a combattu selon les règles. Une joute authentique, un combat authentique où on ne fait pas semblant. Où on ne se roule pas par terre pour rien, et une joute qui est précieuse, donc une joute qui est à la portée éternelle quant au salut de ceux qui nous environnent. Enfin, on retourne avec un terme similaire à combattre, le terme combat maintenant. Et lorsqu'on parle ici de combat, ce terme grec, et je le nomme toujours pas parce que ce soit combattre ou combat, c'est deux termes de la même famille que je garde pour le dernier point de ce matin. Donc, dans le terme combat, on parle non pas vraiment de l'activité, puisqu'on l'a fait dans le terme combattre, dans le verbe combattre, mais lorsqu'on parle ici du terme combat, du nom commun, on parle plutôt d'un lieu. Donc, un lieu de concours, un lieu d'épreuve, un lieu de discipline et un lieu d'observation. Ça, c'est les quatre points concernant le mot combat. Donc, un lieu de concours, un lieu où se gagnent les lauriers et les couronnes. Lorsqu'on parle effectivement des Jeux olympiques, aujourd'hui, on a des médailles qui sont offertes aux vainqueurs. À l'époque, dans les joutes qui étaient de l'Antiquité, on donnait une couronne faite à base de lauriers. Donc, c'était durant cette épreuve, de la manière dont on avait combattu, qui faisait en sorte qu'on recevait ou non la couronne à la fin. Donc, notre couronne dans le ciel, nos couronnes dans le ciel, sont gagnées ici-bas, sur terre. Nos couronnes de l'autre côté de l'éternité que nous recevrons sont d'abord gagnées, sont remportées de ce côté-ci de l'éternité. Donc c'est ici que tu prépares les honneurs qui surviendront de l'autre côté de l'éternité. Deuxièmement, un lieu d'épreuve, donc un lieu, comme on l'a dit tout à l'heure, où on requiert de nous de la résilience, de la ténacité, de l'effort, de la détermination. Un lieu de discipline, et quand je parle ici de discipline, je ne parle pas de correction, mais je parle de discipline dans le sens discipline sportive. Un sport est une discipline sportive, la boxe est une discipline sportive, mais la boxe ce n'est pas la lutte qui est une autre discipline sportive. En athlétisme, on a des lancers, le lancer du poids, le lancer du javelot, le lancer du disque, le lancer du marteau. Mais chacune de ces épreuves sont des disciplines en soi. Et chacune de ces disciplines requiert un athlète qui habituellement est distinct d'un autre. Je comprends que plusieurs coureurs de sprint vont faire différentes épreuves, le 100 mètres, le 200 mètres, certains vont même aller jusqu'au 400 mètres, mais plus on devient efficace dans une des épreuves, plus on va essayer de délaisser un peu les autres qui sont plus futiles ou dans lesquels nous performons un peu moins. Alors quand je parle de discipline ici, c'est que c'est l'endroit où on compétitionne selon nos propres forces. Un coureur de marathon n'a pas du tout la morphologie, ni du tout les habiletés et les aptitudes physiques qu'aurait un coureur de sprint. Un coureur de marathon est constitué physiquement pour courir des marathons, alors qu'un coureur de sprint va être beaucoup plus musculaire, beaucoup plus élancé dans sa morphologie afin d'être plus performant dans une course comme un sprint. Chacun d'entre nous, on a des habiletés, on a des talents qui nous ont été donnés à la naissance de façon innée par Dieu, selon l'appel, selon les forces qu'il voulait nous donner en vue de l'œuvre à laquelle il nous appelle. Donc, ce n'est pas tous qui ont les habiletés de prêcher, ce n'est pas tous qui ont l'habileté, ou ce ne sont pas tous qui ont l'habileté pour exhorter. Chacun d'entre nous, on fait un ministère qui est adapté aux forces qui sont les nôtres, où nos forces sont adaptées au ministère auquel nous avons été appelés. Est-ce que c'est la poule ou l'œuf qui vient avant? Je vous dirais que nos forces sont liées point à la ligne avec le ministère que Dieu a en vue envers nous ou pour nous. Donc, un lieu de discipline, un lieu où on excelle dans les domaines propres auxquels Dieu nous a appelés. Et enfin, un lieu d'observation. Lorsqu'on parlait du combat, on parlait d'une aréna, on parlait d'un colisée, donc un édifice dans lequel survenait une épreuve. Et cette épreuve où on nous observe, tout à l'heure on parlait que notre combat devait être beau pour susciter l'inspiration, pour susciter que d'autres générations nous regardent et fassent de même. Dans Hébreux, au chapitre 12, les premiers versets nous parlent effectivement que nous ne sommes pas en train de faire notre course seuls, mais qu'il y a des spectateurs à cela. Hébreux 12, le verset 1 nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » On nous dit que nous sommes appelés à entrer dans cette course environnée d'une si grande nuée de témoins. Donc oui, on nous regarde, que ce soit dans les lieux célestes, dans les lieux spirituels, que ce soit Dieu, ses anges, que ce soit les entités spirituelles propres au diable et à sa cohorte, ou que ce soit les témoins que nous avons ici-bas sur terre, nos concitoyens de cette terre, de cette génération d'êtres humains qui nous regardent aller et qui observent notre course. Voilà le dernier point que je voulais mentionner ce matin. Combattre et combat sont des termes de la même famille en grec, et j'achève bientôt. C'est le terme pour combattre, agonizomai, A-G-O-N-I-Z-O. M-A-I, A-G-O-N-I-Z-O-M-A-I, et le terme combat, agon. Ces deux termes-là ont bien entendu suscité en français le terme agoniser. Agoniser veut dire qui arrive vers la fin de sa vie, qui est en train de mourir. Et lorsque Paul parlait du combat qu'il menait, il parle d'un combat à la vie, à la mort. Un combat qu'il va mener jusqu'à son dernier souffle. Et voilà une notion importante pour toi et pour moi. Notre combat, l'épreuve de notre vie, se mène jusqu'à notre dernier souffle. Nous ne capitulons pas avant, nous n'arrêtons pas avant, nous n'abandonnons pas avant, nous n'enfreignons pas les règles tant que le souffle de vie nous est accordé. Nous menons notre combat jusqu'à la fin de notre souffle terrestre. Alors la question pour toi, es-tu toujours en train de mener le bon combat? Et es-tu décidé de mener ce bon combat jusqu'à ton dernier souffle? Là encore, c'est une décision que toi tu dois prendre. Ce n'est pas une décision que je peux prendre à ta place. Et ce n'est pas une décision que quiconque peut prendre à ma place. C'est une décision que chacun d'entre nous sommes appelés à prendre quant à servir Dieu, quant à combattre le bon combat jusqu'à notre dernier souffle. Et je laisse la réponse à ce défi entre tes mains. C'est entre toi et Dieu. Mais sache que tu n'es pas seul, qu'il y a des gens qui te regardent. Alors, il y a des gens qui vont voir effectivement que tu mènes le bon combat et vont être inspirés par ce combat que tu mènes. Et certains vont désister le combat parce qu'ils ont vu quelqu'un comme toi qui avait aussi désisté le combat. Voilà pourquoi nous devons faire attention avec ce que nous faisons et nous disons et ce dans quoi nous nous engageons. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est en train de regarder le combat que nous menons. Et si cette personne pouvait être inspirée par le combat que tu mènes et par la manière dont tu combats, et elle-même s'impliquer dans l'œuvre de Dieu, dans ce combat dont la portée est éternelle et est précieuse, je prie que tu sois ce genre d'exemple et ce genre d'athlète qu'on a envie d'imiter et de suivre et d'admirer. Alors combat le bon combat, cours la bonne course, sois ce bon athlète que tu es capable d'être. Permets-moi de prier avec toi ce matin. Alors Seigneur, effectivement, notre vie est un combat. Notre vie est une épreuve qui est éventuellement appelée à être jugée par le juste juge et par le parfait juge que tu es. Nous ne pouvons pas, Seigneur, te fourvoyer par nos semblants et nos faux semblants. Nous ne pouvons pas, Seigneur, te tromper par nos fausses prétentions dans lesquelles nous disons que nous sommes en train de combattre alors que nous sommes au repos et en pause. Seigneur, je prie pour ma sœur, je prie pour mon frère, mais je prie aussi très fortement pour moi, afin, Seigneur, que le combat que je mène soit le bon combat. Je veux, Seigneur, utiliser les dons, les talents que tu m'as donnés de façon bien particulière pour moi-même, Seigneur, afin d'être utile dans l'avancement de ton œuvre. Je ne contemple pas l'œuvre de quelqu'un d'autre, je ne contemple pas, je n'envie pas l'appel d'un autre, mais je veux te satisfaire dans ce poste auquel tu m'as appelé et pour lequel tu m'as équipé et pour lequel, Seigneur, tu me fortifies. Je prie, Seigneur, que tu puisses fortifier ma sœur dans ses dons et dans ses talents et qu'elle puisse, Seigneur, ne pas envier son frère ou sa sœur quant à l'œuvre que ces derniers accomplissent, mais que ma sœur, Seigneur, ait ce désir profond d'accomplir pleinement et justement l'œuvre à laquelle tu l'as appelée. Je prie qu'il en soit aussi pour mon frère, qu'il en soit de même pour mon frère, qu'il puisse s'engager et qu'il puisse te servir avec ténacité, avec résilience, sachant, Seigneur, que des regards sont posés sur lui et que, assurément, s'il combat le bon combat, il sera une source d'admiration, oui, une source de gloire pour toi, assurément, mais aussi une inspiration pour sa génération et pour celles qui lui survivront. Alors nous prions, Seigneur, que tous ensemble, nous puissions être ces soldats, ces sportifs, ces athlètes, ces combattants que tu désires que nous soyons et que nous puissions aller de l'avant d'une façon honorable, d'une façon qui est belle à tes yeux et d'une façon que tu peux approuver. Merci de nous aider, merci de nous équiper, merci de nous assister. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, laissez-moi simplement saluer quelques personnes ce matin. Vous rappelez aussi notre rendez-vous de ce soir avec le pasteur Sergio pour l'étude biblique sur le livre de Marc avec comme thème principal « Servir Dieu en temps de défi ». Et puis, je vous rappelle aussi que les inscriptions pour l'Assemblée de dimanche ont cours. Il y a déjà pas mal de gens qui s'inscrivent, donc on est très content par ce qui se passe, mais il y a encore de la place, donc assurez-vous d'appeler ou d'écrire au secrétariat le plus tôt possible afin de réserver. Vous avez jusqu'à vendredi matin, mais si les places sont toutes comblées d'ici là, malheureusement, ceux qui arriveront plus tard devront être remis à la semaine suivante. Donc, il y a encore de la place, je vous le dis, il y a encore de la place. Donc, inscrivez-vous dès ce matin dans les prochaines minutes. Prenez quelques instants pour le faire au numéro de l'église ou par courriel au courriel du secrétariat. Donc, dernière personne qu'on a saluée tout à l'heure, c'était, je crois, Denise et Gérard de Valmorin ou Sainte-Adèle. Donc, qui d'autre? Bonjour à la sœur Gisela. Bonjour à la sœur Lise. Bonjour à la sœur Melida Gamboa. Bonjour à Linda. Bonjour à Diane. Bonjour à Diana. Bonjour à Jimmy. Bonjour à Max et à Noémie. Bonjour à Marie-Huguette. Bonjour à Eric. Bonjour à la sœur Nina, au frère Rigoberto. Et bonjour à Marie-Huguette. Et voilà, bonjour au frère Pedro Morales qui vient juste de se connecter, alors qu'on va bientôt, donc dans les instants suivants, qu'on va rompre notre communication de ce matin. Alors simplement, vous souhaitez une bonne journée, vous êtes de bons athlètes, restez de bons athlètes, perdurez comme de bons athlètes, et puis allez remporter les couronnes auxquelles vous êtes appelés. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve donc ce soir avec le pasteur Sergio et demain matin pour notre prochaine bénédiction matinale. Sur ce, passez une bonne journée tous et chacun.